France Inter.
Journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des poulets et des céréales ukrainiens en Europe, mais pas trop. Accord hier soir à Bruxelles pour plafonner les importations qui pénalisent les agriculteurs européens. Ils y tenaient beaucoup. Détail dans un instant, l'agriculture et l'Ukraine, il en sera question avec votre invité Nicolas et Léa.
Oui, ce sera dans le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Qui recevons-nous?
Ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas donné d'interview à la radio ou à la télé. Et pourtant, elle est attendue sur plein de sujets. L'Ukraine, l'opération main propre à Marseille, les économies de Bruno Le Maire et la fin de vie. Marine Le Pen est notre invitée à 8h20.
Et vos questions au 01 45 24 7000.
Jour J pour les Galeries Lafayette en région. 26 magasins sous procédure de sauvegarde. Un millier de salariés inquiets. Vu l'histoire des précédentes acquisitions de l'homme d'affaires Michel Ohayon, on va l'entendre. Dans ce journal, on se penchera aussi sur le passé trop du grand-père du petit Émile, disparu l'été dernier dans les Alpes-Maritimes, sur LVMH qui se lance pour la première fois dans le sport avec une écurie d'athlètes prestigieux pour les Jeux, et sur Shakespeare, son œuvre a-t-elle été écrite par une femme? La théorie fait son retour dans un livre extrêmement documenté.
France Inter.
C'est l'une des raisons de la colère des agriculteurs en Europe. L'Ukraine et ses poulets, son blé, son sucre, importés sans droit de douane ni quota depuis 2 ans. Mesure de soutien au pays en guerre contre la Russie. Mais comment continuer sans pénaliser les producteurs européens? La question était au menu à Bruxelles hier soir et un accord a été trouvé. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Les eurodéputés, la Commission et les États membres se sont entendus pour prolonger le dispositif jusqu'en 2025, mais avec des garde-fous. Angélique, est-ce que c'est de nature à rassurer les agriculteurs ?
Oui, car la liste des produits dits sensibles s'allonge. Au plafonnement annoncé des importations sans droit de douane de la volaille, des œufs et du sucre, s'ajoutent l'avoine, le maïs, le gruau et le miel. Pour le blé et d'autres céréales, en cas d'afflux brutal sur nos marchés, la Commission pourra aussi imposer des mesures de restriction dont on n'a pas le détail en revanche à cette heure-ci. Tout cela dans un délai de réaction rapide, 14 jours contre 21 initialement prévus. Des mesures qui rassureront en particulier les agriculteurs des pays de l'Est, mais qui visent aussi à remettre un peu d'ordre dans le marché unique. Plusieurs États, dont la Pologne, avaient en effet pris des mesures restrictives unilatérales. En France, les producteurs de volailles, notamment, se plaignaient de voir arriver sur les étals du poulet à prix cassé. La filière sucre est également très déstabilisée. Alors, à compter de juin prochain et sous réserve d'une validation officielle de cet accord, la Commission aura donc les moyens d'intervenir pour freiner ces importations. Mais avec la reprise du trafic en mer Noire, les exportations de produits ukrainiens vers le reste du monde reprennent, sous souligne tout de même une source diplomatique. Le marché européen par rapport à 2023 devrait donc cette année être moins impacté.
Angélique Boin, correspondante de France Inter à Bruxelles. Et de fait, l'accord conclu hier soir à Bruxelles semble plutôt positif à Pierrick Aurel, secrétaire général des jeunes agriculteurs.
Ça va dans le bon sens. Après, encore une fois, il faudra regarder les seuils qui ont été mis en place pour justement déclencher des clauses de sauvegarde. Maintenant, voilà, il y a aussi des nouveaux produits et on a tous en tête le miel notamment qui faisait partie des produits où on se disait on a en surproduction en France et puis finalement on va importer encore du miel d'autres pays, donc ça va dans le bon sens, mais le timing est mauvais parce que l'agriculture est encore sous pression sur bon nombre de sujets.
Voilà le patron des jeunes agriculteurs reçu hier par Gabriel Attal à Matignon avec la FNSEA pour présenter leurs 5 chantiers prioritaires au gouvernement et demander une accélération des réponses pour sortir de la crise agricole.
Il est 8h05, que vont devenir les Galeries Lafayette de province?
Le sort de 26 magasins, milliers de salariés examinés par le tribunal de commerce de Bordeaux. Aujourd'hui, seul rescapé de l'empire de l'homme d'affaires Michel Ohayon. Depuis la vente ou la liquidation de Camailleux, Gosport, Gap et la Grande Récré, il a perdu sa réputation de sauveur des enseignes en difficulté. Ses Galeries Lafayette sont endettées et le voilà qui fait désormais l'objet, Maxime Deps, d'une enquête du parquet de Paris.
Enquête si les faits sont avérés qui pourraient relever de l'escroquerie en bande organisée. La justice s'interroge sur les pratiques de l'homme d'affaires lorsqu'il était aux manettes de Gap, de Gosport, de Camailleux. Enquête qui inquiète comme ici aux Galeries Lafayette de Bayonne. Poursuivre avec Michel Ohayon, mais comment?
Bien évidemment, oui, que les gens, les salariés n'ont pas confiance.
Muriel Scanzi, 30 ans aux Galeries.
Bien évidemment, ça éveille des soupçons. Quand on voit toutes ces autres entreprises, comment elles ont fini, on se dit qu'on a très peur de finir comme Camailleux.
Une crainte que peu de salariés acceptent de partager en dehors de cet employé protégé par son mandat syndical, car le micro éteint d'autres D'autres décrivent une ambiance délétère, des pressions pour se taire. L'important étant surtout de préserver l'emploi et le tribunal, sauf surprise, devrait valider le plan de continuité. Moindre mal ou simple sursis.
Les discussions tournent autour de combien de temps ça va durer, combien de temps notre magasin va rester ouvert. Pour vous dire, il y a quand même dans notre entreprise, ce qui nous inquiète aussi, un DRH qui a démissionné, un autre dans l'arrêt maladie.
Ambiance morose dans ces magasins où l'on attend le prononcé du tribunal de commerce cet après-midi.
Maxime Debs roulait avec un diesel de plus de 14 ans ou une essence de plus de 19 ans interdit à Paris et à Lyon à partir de l'an prochain. Mais plus à Marseille, Strasbourg et Rouen où la qualité de l'air s'est améliorée, annonce du ministère de la Transition écologique hier soir. Si le maire de Rouen s'en félicite, on l'a entendu à 6h20 sur Inter, la métropole de Strasbourg a décidé de maintenir son calendrier d'interdiction de circulation. 1 milliard de mètres cubes d'eau perdus chaque année. Le chiffre est d'autant plus effarant que certains départements vivent en état de sécheresse permanente. C'est le cas des Pyrénées-Orientales. L'un des points noirs sur la carte des fuites d'eau publiées ce matin par des élus locaux qui n'ont pas les moyens, Célia Quiret, de réparer les tuyaux de leur réseau d'eau potable.
Selon cette carte, près de 200 collectivités sont concernées par des fuites très importantes sur les réseaux. Elles ne représentent que 4% des services de distribution d'eau, mais ces communes perdent plus de la moitié de leur eau. Par ailleurs, un gros tiers des services d'eau en France gaspillent au moins un quart de leur débit à cause des fuites. Près de 11 millions d'habitants sont concernés et ce sont dans la plupart des cas des communes très isolées, rurales, qui se voient privées de cette ressource, regrette Régis Banquet, président de Carcassonne Agglomération.
Souvent, les communes isolées, soit de par leur taille, soit de par leur capacité financière, ne peuvent pas réaliser ces investissements-là et donc se trouvent dans une situation de difficulté par rapport au rendement de leur réseau et au renouvellement nécessaire des tuyaux que nous devons faire sur les périodes, je dirais, assez larges de 50 ou 60 ans. Mais ces renouvellements sont indispensables pour que les rendements des réseaux soient de qualité. Ce n'est pas difficile aujourd'hui. On est sur un renouvellement de réseaux à une cadence de tous les 120-130 ans. Il faudrait les renouveler tous les 50-60 ans.
Cet élu ne s'en cache pas. Les communes ont longtemps vécu avec l'idée que l'eau coulait à profusion. Aujourd'hui, il y a urgence à colmater les fuites. Selon l'Union des industries et entreprises de l'eau, il manque 4,6 milliards d'euros par an pour bien gérer l'eau, dont près de 2 milliards pour l'eau potable.
Célia Quiret du service Sciences, Santé, Environnement de France Inter. Mise en examen et incarcérée dans l'enquête sur la cyberattaque de France Travail. 3 jeunes de 21, 22 et 23 ans, originaires de Lyon et de l'Ardèche. Ils avaient été arrêtés dimanche. Il y a 15 jours, des comptes d'agents ont été piratés et les données de 43 millions de demandeurs d'emploi siphonnés. Qu'est-il arrivé au petit Émile, 2 ans et demi, disparu il y a 7 mois au Vernet, le hameau de ses grands-parents dans les Alpes-Maritimes. Alors que l'enquête se poursuit, le passé trouble de son grand-père ressurgit. L'on découvre que l'homme de 58 ans apparaît dans une vaste affaire de violence et d'abus sexuels qui remonte à plus de 30 ans dans une communauté religieuse du Pas-de-Calais. Révélation du canard enchaîné, le grand-père y a travaillé pendant 4 ans comme éducateur, Jean-Philippe Degnaud.
C'est en enquêtant pour son livre « Les enfants martyrs de Riaumont » paru il y a 2 ans que la journaliste Ixchel Delaporte a entendu une dizaine d'anciens pensionnaires lui raconter les méthodes terrorisantes de frère Philippe au début des années 90. Frapper les enfants sans raison pour les mater, puis leur imposer des massages, parfois douteux, précise l'un d'entre eux. Frère Philippe a très vite renoncé à sa vocation monacale et 30 ans plus tard, à la disparition d'Émile, Ixchel Delaporte a immédiatement fait le lien entre ces deux affaires et elle s'étonne aujourd'hui que le passé trouble du grand-père n'ait pas donné lieu à davantage d'investigations.
La question n'est pas de dire puisqu'il est passé par ce pensionnat et qu'il a un profil de quelqu'un de très violent et de craint, ça fait de lui un suspect ou plus qu'un autre. Mais bon, ce rapport aux enfants, ce rapport à la violence, bon, c'est des choses qui interrogent. Et c'est pas anodin dans une enquête.
À l'automne dernier, dans une interview à Famille Chrétienne, le grand-père d'Émile avait réfuté être un personnage dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, protestait-il. Je m'en moque.
Jean-Philippe Degnaud est dans cette affaire des enfants de Riaumont. 11 personnes sont mises en examen. Le grand-père a été placé sous statut de témoin assisté. C'est un grand pays qui s'apprête à stopper ses ventes d'armes à Israël, le Canada, vient d'en prendre la décision après un vote de son Parlement. Les Anglais et leur mentalité de colonisateur, l'hypocrisie des Européens. À Pékin, le gouvernement attaque ceux qui critiquent la nouvelle loi de sécurité à Hong Kong, votée hier pour étouffer toute dissidence. Quand la junte au pouvoir en Birmanie met en vente la célèbre maison d'Aung San Suu Kyi à Rangoon, l'icône de la démocratie y a passé des années en résidence surveillée, mais la bâtisse n'a pas trouvé preneur, la mise à prix étant de 150 millions de dollars. Quand un politique et un ancien enfant placé se promènent ensemble, c'est un lien entre deux mondes qui s'ignorent. Opération Chaque Pas Compte, lancée l'an dernier par le collectif Les Oubliés de la République. Elle promeut la parole des exclus. Le principe est simple, un responsable politique s'engage à régulièrement se promener au moins 30 minutes avec une même personne. Plus d'une dizaine d'élus se prêtent au jeu désormais, dont le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier. Il marche ici avec Maxime Groux, 22 ans, étudiant issu de l'aide sociale à l'enfance. Claire Flochel a assisté à leur deuxième promenade à Tours.
Durant leur balade sur les quais de Loire, Charles Fournier et Maxime Groult parlent de tout.
Moi, je suis rentré de Chambord dans la nuit, à 70 km sur l'autoroute, tellement il pleuvait.
Ils abordent aussi, bien sûr, l'histoire du jeune homme qui a connu une enfance ballottée de foyers en famille d'accueil.
Ça fait 10 ans que je suis à Tours.
Et avant ?
Avant, j'étais confié au Mans quand j'étais plus petit, donc de mes 0 à 6-8 ans peut-être.
Tu dis peut-être ?
Oh, j'ai plus de souvenirs. Mes vrais souvenirs commencent à partir de la CM1. Avant, c'est trop noir.
Là, je te fais causer.
Oui, un petit peu.
Des échanges dont le but est de permettre aux responsables politiques de mieux comprendre les problèmes de ces oubliés. Pour le député, ça fonctionne.
Je ne crois pas qu'on puisse prendre des décisions politiques sans les nourrir d'une relation avec les gens, avec le réel.
Ces discussions apportent aussi beaucoup à Maxime. Aujourd'hui, il est étudiant et président d'une association pour accompagner les enfants confiés. Il veut travailler dans le social et être au contact de Charles Fournier est un vrai plus.
Dans ma vie, jamais je me suis dit je vais rencontrer des députés pour parler de la protection de l'enfance. Je me sens un peu moins oublié aujourd'hui parce que je suis en contact avec tout un autre monde.
À l'Assemblée nationale, les socialistes ont décidé de lancer une commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance, sur ses dysfonctionnements. Le député écologiste promet de tenir informé Maxime Groult. Pourquoi pas autour d'un repas.
La prochaine fois, je te propose qu'on marche, mais qu'on finisse aussi, on va manger ensemble.
Ouais, avec plaisir.
Banco.
Reportage signé Claire Flochel. Pas de parade sur la Seine pour les athlètes russes et biélorusses. Le CIO a tranché hier. Même sous bannière neutre, les sportifs n'auront droit ni à la fête de la cérémonie d'ouverture, ni au tableau des médailles des Jeux Olympiques de Paris. Le luxe se met au jeu. Sept athlètes aux couleurs d'LVMH, l'Empire français, incarné par Vuitton, entre autres. C'est une véritable écurie de champions. C'est son premier partenariat sportif pour les Jeux Olympiques, donc, avec des visées qui vont sans doute bien plus loin, Jérôme Val.
Les noms ont été savamment égrenés ces dernières semaines. La première prise pour LVMH a été le nageur Léon Marchand, sans doute la star française de ces Jeux, annonce faite le jour même où le partenariat avec Paris 2024 a été signé. Derrière, c'est Antoine Dupont, le visage du rugby français, ou encore la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos qui se sont affichés avec le logo du groupe. Au total, 7 sportifs et parasportifs. Magali Teznas-Dumoncel est la directrice de Sportsora, une organisation qui groupe des professionnels de l'économie du sport.
C'est sûr que pour ces athlètes-là, c'est une chance extraordinaire de pouvoir bénéficier de la visibilité donnée par ce partenariat.
Et c'est tout sauf un hasard. Si LVMH a adopté cette stratégie pour la première fois de son histoire, le groupe s'étant jusque-là positionné sur son créneau du luxe.
Les Jeux Olympiques, finalement, c'est des sports beaucoup moins premium, c'est peut-être plus populaire, mais n'empêche que les Jeux Olympiques, c'est quand même l'événement ultime, le plus bel événement, le plus grand événement. C'est pas si incompatible que ça.
Une première étape franchie et dans la ligne de mire peut-être les Jeux de 2028 aux États-Unis, l'un des principaux marchés du luxe.
Jérôme Val, les Allemands champions du monde, adversaires des Bleus du basket dès le premier tour aux Jeux Olympiques, ainsi en a décidé le sort hier soir. Ce soir, ce sont les poules des tournois de foot qui seront tirés au sort, très attendus par le sélectionneur olympique des Bleus, Thierry Henry. Enfin, c'est une théorie qui court depuis longtemps déjà. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme? C'est la thèse défendue par la metteuse en scène Aurore Evin dans un livre intitulé Mary Sidney alias Shakespeare, une enquête minutieuse. Stéphane Capron sur la comtesse de Pembroke, grande aristocrate de la cour élisabéthaine.
Aurore Evin n'est pas la première à toucher à la statue du commandeur. Même en Angleterre, on commence à douter que Shakespeare ait écrit toutes ses pièces.
Il y a énormément de candidats en fait, à l'identité littéraire de Shakespeare. On en compte à peu près 70. Hein. Mark Rylance, qui est un grand acteur shakespearien, hein, qui a été le premier directeur du théâtre de Globe reconstitué à Londres, s'interroge beaucoup sur l'identité littéraire de Shakespeare et trouve que Mary Sinai est effectivement une très bonne candidate.
Et ce qui est troublant, c'est qu'il n'y a aucune archive en Angleterre sur Shakespeare, auteur.
Sur sa biographie, en fait, on connaît très très peu de choses. On le connaît en tant qu'actionnaire de théâtre. Ça a l'air d'être un sacré homme d'affaires dans l'entreprise du spectacle qui émerge comme ça à la fin du XVIe siècle. Alors on a plein d'archives aussi sur ses trafics de propriétaires fonciers, etc. Mais rien qui permet de le relier à l'écriture de ses pièces.
Alors que Mary Sidney a été l'une des femmes les plus cultivées et brillante de son temps.
On voit que la personne qui a écrit les œuvres de Shakespeare, eh bien, effectivement, était polyglotte, avait une énorme culture hein, littéraire, philosophique, férue d'alchimie. On voit aussi beaucoup de symboliques liées à la fauconnerie, au jeu de boules. Et on voit qu'effectivement, Mary Sinai remplit toutes les cases, en fait.
Le livre d'Aurore Evin recoupe et compare les indices. C'est une enquête fouillée passionnante qui ébranle l'histoire du théâtre.
Et vous êtes bien Florence Paracuellos.
Mais qui sait, être ou ne pas être, Nicolas.
Merci Florence. 9h20, Léa Salamé reçoit Elsa Wolinski et Claire Fournier qui brisent toutes les deux le tabou de la ménopause dans leur podcast respectif. La météo tout de suite avec la vraie Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et Marie-Pierre, toujours des conditions anticycloniques.
Et oui, avec cet anticyclone qui est venu se positionner sur l'Allemagne et la Suisse, mais ça donne des brouillards ce matin sur la moitié nord de la Bretagne et l'Alsace, mais qui vont vite se dissiper. Puis on a pas mal d'entrées maritimes, d'abord sur le golfe du Lion, poussé par un vent d'autan, mais aussi des grisailles sur les côtes varoises, à la côte d'Azur et sur les côtes corses. Puis sur la façade ouest, on a de plus en plus de nuages envoyés par une dépression qui est sur l'Atlantique et qui se rapproche. Les nuages débordent ce matin sur le Bordelais avec un orage qui peut éclater jusqu'aux Charentes, partout ailleurs. Vous passerez une matinée ensoleillée et voilée. Alors attention, ce matin, il fait froid dans certaines régions comme dans le Jura. Le jour s'est levé avec 0 à Champagnole, mais pensez que cet après-midi, vous aurez plus chaud avec 17. Actuellement, il fait 14 au Cap-Breton, mais 2 sur les Ardennes, 3 à Busson, 5 à Caen et Strasbourg, 7 à Ville, 9 à Paris.
Et l'après-midi est radieux.
Ah oui, sur les trois quarts du pays, le soleil sera présent, souvent voilé, avec toujours ses entrées maritimes sur le golfe du Lion entre la mer et Toulouse. Et puis des nuages aussi nombreux qui gagneront le Poitou, la Charente, jusqu'à la Loire-Atlantique, à la Vendée, avec des orages qui pourraient éclater. Puis à noter aussi que de l'instabilité va remonter d'Espagne, comme hier sur les Pyrénées. Et puis le vent de sud qui va se lever dans la vallée du Rhône dans une ambiance toujours trop douce pour la saison avec quelques baisses dans le sud, 17 à Biarritz seulement, comme à Brest. Alors qu'hier à la Grasse, à l'abbaye, fond froide, vous aviez 25 degrés. Aujourd'hui, vous aurez 18 sous les nuages. Comptez 19 à Metz comme à Marseille ou à Lille, 20 à Paris et au Mans, 23 à Bordeaux comme à Grenoble. On attend jusqu'à 26 à Pau et profitez de cette ambiance car ce week-end, on va perdre jusqu'à 10 degrés. Ah oui. En se rappelant, Nicolas, Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre.
Et on va tenter sans problème. Merci Marie-Pierre, 8h19.